আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাত ওয়াসসালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন আম্মা বা'দু ফা'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কেস কে লনফের ইনভোকেশন দাত্তার। ও সিনিয়র দু প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, কিকুনক লি ও একুত লে লিভরে কেস কে লনফের, প্রোটেজ লে দু শাতিমন দে লনফের এ আকর্দ লুই আনসি কা সে পারান লন্ট্রে ও পারাদিস sans avoir à rendre de compte. Amin, bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa sallam. L'excellence de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, il n'y aura pas d'ombre en dehors de l'ombre du arsh d'Allah. Trois personnes s'y trouveront. On demanda: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui seront ces gens? Il répondit: celui qui enlève un souci à un membre de ma umma, celui qui fait revivre ma sunna, et celui qui envoie sur moi la salat en abondance. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Les nouvelles modes sont-elles le seul moyen de se faire respecter? Chers frères en islam, nous devons réfléchir à la question suivante. Le monde n'est-il pas considéré comme la chose la plus importante de nos jours? Pourquoi de nombreux musulmans n'ont-ils plus de respect pour l'islam? N'avons-nous pas cessé d'inviter au bien et d'interdire le mal? Les jurons et les abus ne sont-ils pas omniprésents dans toutes nos conversations? Malheureusement, le mode de vie de beaucoup d'entre nous indique que nous donnons la priorité à ce monde plutôt qu'à l'au-delà. Nous nous éloignons chaque jour un peu plus de la loi islamique et de la sunna. Cet éloignement de la sunna et le suivi des tendances immorales de la mode conduiront finalement cette communauté à la ruine. L'amour du monde est la racine de tous les péchés. Chers frères en islam, nous devons nous réveiller avant que la mort n'arrive. Tout ce chaos provient de l'amour pour ce monde qui pousse aussi les gens à s'éloigner toujours plus de la sunna. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Hubbu dunya ra'su kulli khati'a » c'est-à-dire « l'amour du monde est la racine de tout péché ». Même pour atteindre les bénédictions éternelles du paradis, nous sommes incapables de quitter le moindre de nos luxes domestiques pour voyager quelques jours dans le sentier d'Allah Azzawajal et apprendre la sunna. Pourtant, lorsqu'il s'agit de gagner les richesses éphémères de ce monde temporaire, nous sommes prêts à quitter nos familles pendant des années et à voyager à des milliers de kilomètres. La dégradation religieuse des musulmans et la domination des mécréants sur eux, les mosquées vides alors que les cinémas et autres lieux de divertissement sont bondés, l'incursion des traditions européennes, la prédominance de la mode occidentale immorale, la télévision et l'internet qui diffusent des spectacles dans tous les foyers, le péché partout où l'on regarde, de nombreux musulmans au caractère bas et aux mauvaises manières, tout cela ne nous incite-t-il pas à réfléchir? Ne nous disent-ils pas de voyager dans les Madini Kafla afin d'essayer de nous rectifier et de rectifier les autres? Il semble impossible pour nous de voyager dans ces cafés-là pendant un an, un mois par an ou trois jours par mois. Si nous restons tous figés dans nos excuses, qui appellera les gens de ce monde à la droiture? Qui veillera sur l'umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui guidera les musulmans naïfs vers la sunna, qui ont plutôt adopté les voies des autres? Qui les encouragera à agir selon le principe suivant: je dois m'efforcer de me rectifier et de rectifier les gens du monde entier, Inch'Allah, Azza wa Jal. Les frères en islam qui écoutent ceci sont exhortés à voyager dans les Madini Kafala pendant un an, un mois dans l'année ou trois jours tous les mois, Inch'Allah. Voici une histoire décrivant les immenses bénédictions de cette pratique. Comment le détester devint aimé. Un frère en islam de Karachi, au Pakistan, était autrefois une personne désorientée. Accro à la télévision, il passait ses nuits à vagabonder avec des amis grossiers. En raison de sa mauvaise conduite, non seulement ses proches l'évitaient, mais également ses propres parents. Il craignait son retour à la maison et conseillait même aux autres de l'éviter, à tel point que son père était prêt à le mettre à la porte. Ses habitudes pécheresses furent rectifiées lorsqu'un prédicateur de Da'wat Islami l'invita avec amour à un rassemblement inspiré par la sunna de deux jours qui devait se tenir à Quetta. Il dit qu'il y assisterait si son père était d'accord. Rempli de la passion de répondre l'appel à la droiture, le prédicateur fut ravi d'entendre cela, car le père du frère en islam avait un grand amour pour Da'wat Islam. Lorsque l'occasion se présenta, le prédicateur encouragea le père à autoriser son fils à y assister. Il s'exécuta avec joie et prit même en charge certains frais, car il voyait là un moyen pour son fils de changer. Le jour arriva finalement et le frère en islam assista au rassemblement. La présence de ceux qui aiment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les discours inspirés par la sunna, les échos du dhikr et les invocations sincères touchèrent son cœur comme jamais auparavant. Il fut invité à voyager dans une madani qafla, ce qu'il accepta volontiers. Alhamdulillah, au cours de ce voyage, il se retrouva à nouveau parmi ceux qui aiment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur fut touché encore davantage, ce qui l'amena à se repentir de ses péchés, à s'habiller conformément à la sunna et à s'excuser auprès de ses parents pour avoir porté atteinte à leurs droits. Il fit même l'intention d'agir selon la sunna, de garder une barbe et de porter un imama. De retour chez lui, il pleura devant son père et demanda qu'on lui pardonne son mauvais comportement. Il commença alors à travailler à la diffusion de la sunna. Les mêmes membres de la famille, qui étaient auparavant dégoûtés à sa vue, l'accueillirent à bras ouverts. Alhamdulillah. Grâce aux bénédictions de Da'wat Islami, il passa du statut de personne la plus détestée à celui de personne la plus aimée. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad, appelait sa famille à la droiture. Chers frères en islam, les efforts d'un seul frère en islam permirent à un individu universellement méprisé d'être aimé de tous. Si nous commençons collectivement à encourager les autres à accomplir la prière, à participer à des rassemblements inspirés par la sunna et à voyager dans les madani qafila, un changement positif se produira sous nos yeux. En particulier, nous devrions nous efforcer de sauver nos familles du péché et de les encourager à faire le bien. Le compagnon Zayd bin Aslam radiallahu anhu rapporte comment le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour récité ce verset. Traduction: Sauvez-vous et vos familles du feu. Les compagnons, alayhimur ridwan, demandèrent: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment pouvons-nous sauver nos familles du feu? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: Ordonnez-leur de faire ce qui apporte l'agrément d'Allah et interdisez-leur ce qui lui apporte le désagrément. Une histoire inspirante de crainte d'Allah. Chers frères en islam, dans ce hadith, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité une partie du sixième verset d'At-Tahrim. Avant de discuter de ce verset coranique en détail, mentionnons une histoire inspirante concernant la crainte d'Allah. Le compagnon Ibn Abbas radiallahu anhuma décrit ce qui s'est passé lorsque Allah a révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Traduction: Ô croyants, sauvez-vous et vos familles du feu dont le combustible est l'homme et la pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité devant ses compagnons, ce qui a fait perdre connaissance à un jeune. Posant sa main sacrée sur la poitrine de ce dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam constata que son cœur battait encore. Sur quoi il déclara: Ô jeune homme, dis La ilaha illallah. Il fit ainsi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonça la bonne nouvelle du paradis. Les compagnons demandèrent: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de n'importe lequel d'entre nous? Et si l'un d'entre nous vivait ce que le jeune a vécu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: N'avez-vous pas entendu ces paroles d'Allah? Dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Traduction: C'est pour celui qui craint de se tenir dans ma cour et craint le commandement de châtiment que j'ai déclaré. Comment préserver sa famille du châtiment? Dans Hazainul Irfan, Sayyid Naimuddin Muradabadi rahmatullah alayh commande ce verset: En obéissant à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant les actes d'adoration, en évitant les péchés, en guidant la famille à la droiture, tout en lui interdisant le mal, et en lui enseignant le savoir et les bonnes manières. Ils seront sauvés du châtiment. Parlez à votre famille des bonnes affaires. Le quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit à propos du verset précédent: Apprends-toi-même le bien, transmets-le à ta famille et enseigne-leur la conduite vertueuse. Fatwa de l'imam Ahmed Raza Khan. Ce qui suit est une version simplifiée d'une fatwa trouvée dans Fatwa Razaviya. Question. Est-il fard ou wajib pour les parents d'ordonner à leurs enfants pubères de faire le bien et de s'abstenir du mal? Réponse. La règle juridique pour les parents concernant la rectification de leurs enfants varie en fonction de la classification de l'action spécifique. Par exemple, elle est fard lorsque l'action est fard. Il en est de même lorsque l'action est wajib, sunna ou mustahab. Cependant, cela est conditionné par leur capacité et la quantité de bénéfices que cela entraînera. Dans le cas contraire, l'injonction coranique est claire. Alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha tadaytum. Traduction: prenez soin de vous-même. Celui qui s'est égaré ne vous fera aucun préjudice tant que vous êtes sur le droit chemin. Description de l'enfer. Chers frères en islam, nous devons accorder une attention particulière à notre rectification et à celle de nos familles. Nous devons nous efforcer de nous sauver et de les sauver du feu sombre et terrifiant de l'enfer. Par Allah Azza wa Jal, le feu de l'enfer est terrible. Personne ne sera capable de l'endurer. C'est un moment de réflexion pour ceux qui ne parviennent pas à accomplir les prières obligatoires, à observer le jeûne, à donner la zakat et à accomplir le hajj. Il en va de même pour ceux qui font du tort à leurs parents, ceux qui n'élèvent pas leurs enfants conformément à la loi islamique et à la sunna, ceux qui empêchent leurs fils de se laisser pousser la barbe, ceux qui se rasent eux-mêmes la barbe ou la coupent plus court que la longueur du poing. Certains vendent de manière trompeuse des produits de mauvaise qualité à leurs clients, utilisent des menaces pour vendre leurs articles, volent, regardent des films et des séries à la télévision et sur Internet, écoutent des chansons, facilitent la tâche à d'autres et commettent toutes sortes de péchés. C'est le moment de faire une pause pour réfléchir. Soyez assurés que vous serez incapable d'endurer le feu sombre de l'enfer. Le compagnon Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le feu de l'enfer a été attisé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Il a ensuite été attisé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne blanc, et 1000 autres années jusqu'à ce qu'il devienne sombre. Maintenant, il est extrêmement sombre. Le terrifiant récit sur l'enfer de Djibril. Par Allah, le châtiment de l'enfer ne peut être supporté par personne. L'imam Abul Qasim Suleyman Tabarani rahmatullah alayh raconte que l'ange Djibril alayhi salam vint un jour trouver le prophète sallallahu alayhi salam et lui dit: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je le jure par celui qui vous a envoyé en tant que vrai prophète, si l'enfer s'ouvrait d'une quantité égale aux chasses d'une aiguille, tous les habitants de la terre périraient à cause de sa chaleur. Si un seul vêtement des gens de l'enfer était suspendu entre les cieux et la terre, tous les habitants de la terre mourraient. Je le jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité, si un ange désigné sur l'enfer devenait visible, tous les habitants de la terre mourraient. Je le jure par celui qui vous a envoyé en tant que messager véridique. Si un maillon des chaînes de l'enfer qui a été mentionné dans le Coran était placé sur une montagne de ce monde, elle deviendrait poussière et tomberait au Sa'atu Thara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Djibril, tu en as assez décrit, arrête, de peur que mon cœur n'éclate et que je ne décède. Après inspection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit que l'ange était en train de pleurer. « Ô Djibril, demanda-t-il, pourquoi pleures-tu? Tu as un rang particulier auprès d'Allah. » L'ange répondit: « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas arrêter mes larmes, car je ne sais pas si mon rang actuel auprès d'Allah restera le même. Peut-être serai-je mis à l'épreuve comme l'a été Iblis, ou éprouvés comme l'ont été Harout et Marout. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se mit également à pleurer. Alors que ces deux illustres personnalités versaient des larmes, Une voix s'exclama: Ô Djibril, ô Muhammad, Allah vous a protégés tous les deux de lui désobéir. L'ange Djibril s'éleva alors vers les cieux, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit. Il passa devant les compagnons Ansari, alayhimu ridwan, qui riaient et jouaient. Il déclara: Vous riez alors que l'enfer est derrière vous. Si vous saviez ce que j'ai su, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Vous cesseriez de manger et vous vous dirigeriez vers les montagnes, endurant de grandes difficultés pour accomplir l'adoration. Une voix se fit entendre. « Ô Muhammad, ne laisse pas mes esclaves désespérer. Je t'ai envoyé comme convoyeur de bonnes nouvelles. Tu ne causes pas de difficultés. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors à ses compagnons « Restez sur le chemin droit et prenez la voie du milieu. » Nos cœurs restent insensibles. Chers frères en islam, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est infaillible, c'est-à-dire ma'soum, et le chef des infaillibles. L'ange, alayhi salam, est infaillible, et le chef des anges, infaillible. Malgré cette réalité, ils ont tous deux pleuré de peur d'Allah lorsque l'enfer a été mentionné. Et il y a nous, qui commettons péché sur péché, mais les descriptions terrifiantes de l'enfer ne nous font aucun effet. Son effrayante punition ne nous fait pas ressentir de honte, d'inquiétude ou de remords. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. La mort dans la solitude de la nuit. Lorsque nos pieux aînés entendaient mentionner l'enfer ou les versets coraniques le décrivant, ils tombaient inconscients ou même décédaient. Mansour bin Umama, rahmatullah alayh, explique qu'au cours de son voyage de Hajj, il s'arrêta dans une ruelle de Kafa. Pendant la nuit, il alla pour répondre à un besoin, quand il entendit quelqu'un faire cette invocation à partir d'une maison voisine. « Ô mon Seigneur, par ta puissance et ton honneur, je n'avais pas l'intention de m'opposer à toi dans ma désobéissance, et je n'étais pas inconscient de toi lorsque j'ai péché. J'ai péché et j'ai tenu pour acquis ton voile qui donne du répit. Je suis devenu audacieux dans le péché, et mon malheur m'y a poussé davantage. J'ai transgressé contre toi à cause de ma folie. Cependant, j'espère dans ta grâce que tu accepteras mon repentir. Si tu ne l'acceptes pas, et si tu n'as pas pitié de moi, ma tristesse durera toujours car je suis passible d'un châtiment. » Lorsque l'homme se tut, Mansour bin Umama rahmatullah alayh a récité le sixième verset d'At-Tahrim. « Ya ayyuhalladhina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Traduction. Ô croyants, sauvez-vous et vos familles du feu dont le combustible est l'homme et la pierre. Des anges extrêmement puissants y sont placés, qui ne désobéissent pas à l'ordre d'Allah, et ils ne font que ce qu'on leur ordonne. Après avoir récité ce verset, il y eut un grand cri, un bruit sourd, puis un silence complet. Mansour bin Umama s'occupa de son besoin et retourna à son lieu de séjour. Lorsqu'il passa au même endroit le matin, il vit des gens rassemblés pour présenter leurs condoléances et entendit des bruits de pleurs intenses. Une vieille femme en larmes disait « Qu'Allah ne récompense pas l'assassin de mon fils, qui a récité un verset décrivant un châtiment que mon fils ne pouvait pas supporter » et qui l'a poussé à mourir par peur de lui. Mansour bin Umama rahmatullah alayh mentionne en outre « Cette nuit-là, j'ai fait un rêve dans lequel je voyais un individu me dire « Je suis la même personne qui t'a entendu réciter le sixième verset d'At-Tahrim, qui m'a fait mourir de peur d'Allah. » J'ai demandé « Ma fa'alallahu bika » c'est-à-dire « Comment Allah t'a-t-il traité ?» Il répondit « Allah m'a traité de la même manière qu'il a traité les martyrs de Badr. » Lorsque je lui ai demandé de décrire cela, il expliqua « Allah a fait en sorte qu'il soit martyrisé par les épées des mécréants. Il a fait en sorte que je sois martyrisé par l'épée de son amour. » Amin bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Aidez votre famille à s'améliorer sur le plan islamique. Chers frères en islam, Telle est la grandeur de ceux qui craignent Allah. Le verset qui a provoqué le décès de cette personne craignant Dieu contient également un commandement pour se sauver soi-même et sa famille du feu de l'enfer. Chacun doit accomplir de bonnes actions, éviter les péchés et redresser sa famille. Le savant Al-Qurtubi, rahmatullah alayh, rapporte la déclaration suivante de l'imam Al-Kiya, rahmatullah alayh. Il est obligatoire d'éduquer nos enfants et nos familles concernant l'islam, de leur enseigner le bien et de leur inculquer les bonnes manières et les compétences dont on ne peut se passer. Enseigner d'abord l'islam aux enfants. Le juriste Hanafi, Mufti Amjad Ali Azmi, rahmatullah alayh, déclare: la priorité absolue est d'enseigner aux enfants le Coran et les questions essentielles de l'islam. Ils doivent être éduqués sur le jeûne, la prière, la purification, les achats et les ventes, les questions liées à l'argent, d'autres sujets auxquels une personne est confrontée quotidiennement et sur les choses qui amènent une personne à s'opposer à la loi islamique si elle n'en est pas consciente. Si vous observez qu'un enfant a un intérêt particulier pour les études et qu'il est mûr, qu'y a-t-il de mieux que de l'orienter vers le savoir islamique? Si l'on n'en a pas les moyens, on peut, après lui avoir enseigné les croyances correctes et les règles essentielles, le placer dans n'importe quel domaine de travail autorisé. Après avoir enseigné à une fillette les croyances islamiques et les règles essentielles, demandez à une femme de lui enseigner la couture, la broderie et d'autres techniques couramment utilisées par les femmes. Il faut également lui enseigner les tâches ménagères car une femme habile peut mener une vie bien plus facile qu'une autre qui ne l'est pas. Enseignez la générosité aux enfants. L'imam Abu Mansour Maturidi, rahmatullah alayh, a dit: il est wajib pour un croyant d'enseigner à ses enfants la générosité et la gentillesse, tout comme il est wajib de leur enseigner le tawhid et la foi. La générosité et la gentillesse éliminent l'amour du monde, qui est la racine de tout péché. Lorsqu'un enfant fut donné à une personne sans enfant. Un homme riche n'avait pas d'enfant. Il fit de nombreuses tentatives dans ce sens, mais n'y parvint pas. Quelqu'un lui conseilla de se rendre à Mecca et d'invoquer près du Maqam-e Ibrahim dans Masjidul Haram. Il fit cela et obtint un beau-fils. L'homme riche commença à gâter cet enfant, le couvrant d'un amour excessif sans se soucier de l'élever correctement. L'enfant grandit et devint un dépensier immoral. Le père s'en rendit compte et cessa de donner de l'argent de poche à son fils, ce qui amena ce dernier à le détester. Ce mauvais fils se rendit à l'endroit même où son père avait fait l'invocation pour lui dans Masjidul Haram et commença à faire l'invocation pour la mort de son père afin qu'il puisse hériter de toute sa richesse. Un bon message pour ceux qui veulent des enfants. Chers frères en islam, ceux qui se plaignent de ne pas avoir d'enfants devraient prendre garde à cette histoire. Nous ne devons pas seulement demander à Allah Azzawajal des enfants, mais nous devons lui demander de nous accorder de bons enfants pieux, qui soient une source d'aisance pour nous. Imaginons que l'enfant naisse avec une maladie ou un handicap, qu'il soit mis au monde par césarienne ou que la mère perde la vie. C'est parfois le cas, surtout pour les femmes qui accouchent pour la première fois. Parfois, l'enfant grandit en manquant la prière, en causant du tort à ses parents, en devenant dépendant à cause de mauvaises fécondations, en volant des objets, et en devenant une menace pour la société ou en adoptant des croyances erronées. Ma'adallah, certains deviennent même apostats pour avoir manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avoir prononcé des paroles de mécréance. En d'autres termes, la naissance d'une personne dans ce monde signifie qu'elle sera confrontée à d'innombrables épreuves dans ce monde et dans l'au-delà. Prenez note des éléments suivants. Les hadiths nous encouragent à augmenter la taille de la umma. Le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouira de l'immensité de cette umma et exprimera ce bonheur devant les autres nations. Lorsque l'on souhaite avoir des enfants, il faut avoir la bonne intention d'atteindre le bien dans ce monde et dans l'au-delà. Celui qui ressent de l'angoisse parce qu'il n'a pas d'enfant et qui fait tous les efforts possibles pour en avoir un devrait réfléchir profondément à la question de savoir si sa principale raison est d'obtenir des avantages mondains ou personnels. Si son désir d'avoir des enfants n'a pas d'objectif supérieur, tel que l'amélioration de l'au-delà, alors c'est comme s'il souhaitait involontairement que quelqu'un naisse dans ce monde et soit ensuite soumis à des épreuves majeures. Ces paroles ne peuvent peut-être pas être comprises par ceux qui s'inquiètent de la façon dont ils vont mourir. En résumé, Le saint Foudel bin Iyaz, rahmatullah alayhi, a dit: Je n'envie même pas le plus vertueux des gens, car il sera témoin des terreurs du jour du jugement. Je n'envie que celui qui n'est rien, c'est-à-dire qui n'existe pas. Le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, s'exclama un jour par crainte d'Allah: Si seulement ma mère ne m'avait pas mis au monde. Qu'Allah azza wa jal leur fasse miséricorde et qu'il nous pardonne sans avoir à rendre de compte par leur entremise. Amin, bijahi khatamin nabijin, sallallahu alayhi wa sallam. La fin terrifiante d'un père savant. Les enfants peuvent devenir une bénédiction pour leurs parents, mais parfois, faute d'une éducation islamique adéquate, ils deviennent une épreuve majeure. Ceci peut être compris à partir de l'histoire suivante rapportée par Malik bin Dinar, rahmatullah alayh. Un savant de Bani Israël organisait chez lui des rassemblements au cours desquels il prononçait des discours. Un jour, son fils indiqua du regard une belle jeune fille que le savant aperçut. Il lui dit « Mon fils, sois patient ». En disant cela, le savant tomba de l'estrade, la tête la première, et se brisa les os. Sa femme fit une fausse couche et son fils fut tué au combat. Allah envoya une révélation au prophète de l'époque, lui ordonnant d'informer le savant qu'aucun siddiq ne naîtrait dans sa lignée. Allah dit « Pour mon agrément, a-t-il seulement eu assez de déplaisir pour dire à son fils d'être simplement patient ?» Le savant ne s'empressa pas d'arrêter son fils et ne le réprimanda pas suffisamment pour qu'il ne commette pas d'erreur. La narration fait également mention d'un siddiq qui est le rang le plus élevé de la sainteté. Alhamdulillah, la couronne des saints, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi, était l'un d'entre eux. Du vol d'un crayon à la mort par pendaison. Chers frères en islam, nous devrions élever nos enfants de manière à ce que, dès l'enfance, ils éprouvent de l'amour pour le bien et de l'aversion pour le mal. Si cela n'est pas fait, l'enfant pourrait devenir corrompu et commettre des actes répréhensibles en grandissant. On raconte qu'un voleur fut un jour emprisonné et accusé de vol et de meurtre, ce qui lui valut d'être condamné à la mort par pendaison. À l'approche de ses derniers instants, on lui demanda quelle était sa dernière volonté. Il répondit qu'il voulait rencontrer sa mère. Dès qu'il vit sa mère, il commença à l'attaquer, à la mordre et à la frapper. Les autorités réussirent à sauver la mère de ce fils sans pitié, et lorsque l'on l'interrogea sur ce geste déplorable, il expliqua « C'est cette mère qui m'a permis d'en arriver là. Pendant mon enfance, j'ai volé un crayon à un autre élève de l'école, et je le lui ai montré à la maison. Elle aurait dû m'apprendre que c'était mal, mais elle s'est contentée de sourire. J'étais jeune et naïf à l'époque, et j'ai donc pensé que j'avais fait quelque chose de bien. J'ai alors commencé à voler des livres et d'autres crayons. Lorsque j'ai grandi, j'avais pris l'habitude de voler, et je n'y voyais aucun inconvénient. J'ai ensuite commencé à commettre des vols, au cours desquels j'ai commis des meurtres, ce qui m'a valu d'être considéré comme une personne dangereuse. La police a fini par m'arrêter, et en raison de l'éducation incorrecte de cette mère, une corde sera bientôt passée autour de mon cou. » La punition dans le monde n'est rien en comparaison. Chers frères en islam, voyez ce qu'une mauvaise éducation peut entraîner. Vous pensez peut-être à juste titre que vous n'apprenez pas à vos enfants à devenir des voleurs. Oui, il est vrai que les parents n'enseignent généralement pas à leurs enfants de voler les biens d'autrui. Mais le vol n'est pas le seul mal au monde. Il y en a beaucoup d'autres, et les parents les enseignent parfois à leurs enfants. Par exemple, vendre quelque chose à quelqu'un en lui mentant, en le trompant, en ne lui donnant pas la pleine mesure, etc. N'est-ce pas un péché d'effectuer des transactions basées sur l'usure? De faire passer des produits de mauvaise qualité pour des produits de qualité supérieure? D'empêcher son fils de se laisser pousser la barbe ou sa fille de se couvrir correctement? Ces personnes ne peuvent-elles pas être qualifiées de voleurs civilisés et de criminels au col blanc dans la société? Ces personnes qui semblent respectables dans ce monde espèrent-elles recevoir l'honneur dans l'au-delà? Par Allah Azza wa Jal, le châtiment que subiront ceux qui élèvent leurs enfants dans le péché est inimaginablement plus sévère que le châtiment terrestre de ce voleur et la douleur momentanée ressentie par sa mère. Al-Aman wal-Hafiz. Lorsqu'un fils alla brûler son père. Voici un incident choquant concernant les conséquences de ne pas donner à nos enfants une éducation islamique. Voici le résumé d'une déclaration d'un frère en islam d'Hyderabad au Pakistan. En 2001, une personne riche décéda dans notre localité. Les gens étaient rassemblés dans sa maison luxueuse, lorsque son fils de 19 ans, qui étudiait dans une école moderne, se leva pour partir. Lorsqu'on lui demanda où il allait, il répondit: Mon père m'aimait beaucoup, alors je me suis dit que j'allais l'aider de mes propres mains pour la dernière fois. Je vais chercher du bois pour brûler son corps. Tout le monde fut stupéfait d'entendre cela. Le défunt était musulman et il se demandait pourquoi le fils avait besoin de bois pour brûler le corps de son père. Après réflexion, ils réalisèrent que ce fils stupide avait probablement vu des scènes de corps brûlés dans des films de non-musulmans et qu'il pensait que tout le monde devait être brûlé après sa mort. Il ne savait même pas que les musulmans sont enterrés et non brûlés. Quoi qu'il en soit, le père a finalement été enterré. Lorsque les habitants de cette région eurent connaissance de ces effets négatifs de regarder des films, ils en tinrent compte et de nombreux jeunes coupèrent leur connexion à la télévision. Il en fut ainsi pendant un certain temps, mais peu à peu, Satan et le nafs les vainquirent à nouveau, et ils rebranchèrent leur télévision. Sarvaredin, lijiye apne natwano ki khabar, nafso shaitan sayyida kab tak dabate jayenge. Explication de la poésie de l'imam Ahmad Reza Khan. Dans ce couplet, l'imam Ahmad Reza Khan dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, protège du péché les faibles dévots que nous sommes. Ô notre maître, nous sommes plongés dans le péché depuis trop longtemps. Satan et le nafs nous ont piégés dans la transgression depuis un âge. Un excellent moyen de se protéger du mal de Satan et du nafs est de prêter allégeance à un cheikh qualifié. Lorsque les attaques de Satan et du nafs sont inefficaces contre le cheikh, ses mourides seront également protégés par les bénédictions de ce dernier. Attente de la transmission de la récompense. Chers frères en islam, le récit précédent contient de nombreuses leçons pour nous. Nous sommes en vie aujourd'hui, mais un jour viendra où nous mourrons. Disons que nous n'avons donné à notre fils qu'une éducation mondaine, que nous lui avons appris à gagner de l'argent, que nous lui avons joué de la musique, que nous lui avons montré des films, que nous ne lui avons donné aucune éducation islamique, que nous ne lui avons pas montré le chemin de la mosquée, que nous n'avons pas éclairé son cœur par l'amour du prophète, que nous ne lui avons pas ordonné de se laisser pousser la barbe, et que nous l'avons au contraire encouragé à adopter les dernières modes. Si nous faisons cela, souvenez-vous qu'il ne saura pas comment faire votre prière funéraire, ni transmettre la récompense à votre âme après votre mort. Vous aurez besoin d'une récompense après votre mort. Le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Le défunt dans la tombe est comme une personne qui se noie. Il attend avec impatience que l'invocation de son père, de sa mère, de son frère ou de son ami lui parvienne. Lorsqu'elle lui parvient, elle lui apparaît meilleure que le monde et tout ce qu'il contient. Les récompenses offertes aux défunts par ses proches vivants sont accordées par Allah, comme si elles étaient des montagnes, tandis que le don des vivants consiste à invoquer pour le pardon du défunt. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad.